L'Inde est un pays à la puissance méconnue, voire ignorée. En France, on parle beaucoup de la Chine qui fait régulièrement la une de l'actualité, mais il est vrai que l'Inde, en dépit de son poids démographique, de son poids économique et de sa présence géographique, eh bien l'Inde est bien moins souvent évoquée. Et donc pour essayer de combler cette lacune, nous allons aller en Inde au cours de cette émission avec mon invité Anne Viguier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes agrégée d'histoire, spécialiste de l'Inde. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, fameux INALCO, où vous dirigez le département Asie du Sud et Himalaya, et vous êtes également chercheuse à l'Institut de l'INALCO qui s'appelle le CESMA, qui est consacré particulièrement au monde africain, américain et asiatique. L'INALCO, pour nos étudiants qui nous écoutent, si vous voulez apprendre des langues orientales, des langues, comme on dit, rares, enfin qui sont rares en France, mais beaucoup moins rares dans les pays concernés, eh bien, c'est fait pour vous. Vous pourrez apprendre ces langues, vous pourrez découvrir ces civilisations. Et c'est un des très beaux instituts de recherche que nous avons en France. Et vous avez publié, Anne Viguier, aux éditions Flammarion, une brève histoire de l'Inde, du pays des mille dieux à la puissance mondiale, et ce donc qui parle chez Flammarion. Et c'est cette puissance mondiale que nous allons essayer de percevoir au cours de cette émission. Alors, je le disais en introduction, l'Inde est un pays dont on a l'impression qu'il ne recherche pas la puissance. Et un exemple qui m'a toujours frappé, c'est la question des Jeux Olympiques. On voit que la Chine a beaucoup de médailles à chaque fois, investit beaucoup dans les Jeux Olympiques. Et l'Inde, quand on regarde son nombre de médailles, c'est faible, c'est une ou deux médailles. Alors qu'avec la population qu'ils ont, ils pourraient prétendre avoir des médailles importantes. On a l'impression que la puissance ou la domination ou la présence mondiale n'est pas quelque chose qui les intéresse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une vision erronée, une erreur que l'on aurait en France ou en Europe ?
Oui, effectivement. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, non, je pense que, surtout maintenant, enfin depuis, disons, le début d'année 2000, l'Inde se voit comme une puissance déjà réelle, mais surtout une superpuissance en devenir. Et elle aspire à avoir enfin un rang mondial qui corresponde à la taille de sa population, à effectivement son histoire très longue et sa position géographique de carrefour depuis très longtemps. Et voilà, donc c'est vrai que sur le sport, elle n'investit pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de structures sportives qui permettent d'entraîner des jeunes gens pour gagner des médailles. Mais quand ils en gagnent, ils en font beaucoup ils en sont très, très contents. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels, dans le domaine du soft power, parce que là, sur le sport, on est sur le soft power, où l'Inde investit, je pense par exemple à la diffusion autour du yoga, qui est devenu avec une journée mondiale du yoga depuis 2021. Donc voilà. Donc je pense que l'Inde veut s'affirmer sur la scène internationale. Ça fait longtemps qu'elle réclame d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, un siège permanent. Et donc ça fait partie de ces stratégies. Voilà. Alors il y a plusieurs registres en fait dans lequel elle veut avoir un rôle. Je pense qu'il y a le registre des pays du Sud, ou le Sud global, et donc là-dedans, elle est, depuis qu'on parle d'émergence, hein, des grands pays émergents depuis le début des années 2000, donc il y avait le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, elle se positionne dans ce domaine-là, et d'ailleurs, elle voulait faire utiliser la présidence du G20 qu'elle a là, cette année, pour mettre en avant plutôt des thématiques liées justement à ces pays du Sud, le poids de la dette, la question de la sécurité alimentaire et aussi énergétique, et puis évidemment le changement climatique et les conséquences pour ces pays. Donc le fait qu'il y ait eu la guerre en Ukraine a un petit peu squeezé, disons, cette prétention-là, mais en tout cas c'était un peu un de ses objectifs. Voilà, donc il y a cet aspect du Sud, et puis il y a le nouvel ordre mondial, vers un monde multipolaire, dans lequel il y a une bascule vers l'Est, la Chine bien sûr est amenée à jouer un rôle de plus en plus important, et puis l'Inde également, donc elle se voit aussi en concurrent, ou en l'autre pôle, disons, de l'Asie, face à la Chine, quoi. Donc,
Rappelons que c'est une puissance nucléaire. donc au même titre que la Chine, que le Pakistan d'ailleurs, son voisin. On y reviendra, ses relations pour le moins tendues avec le Pakistan. Avant de cela, Anne Viguier, je voulais évoquer la question du fonctionnement politique de l'Inde. On la présente souvent comme étant la plus grande démocratie au monde, ne serait-ce que par son poids démographique, mais le fonctionnement politique nous échappe un petit peu en France, ça paraît assez compliqué. Comment fonctionne exactement l'Inde ? Est-ce que c'est un État fédéral d'abord ? Ensuite, comment est organisé le pouvoir entre le Parlement, le chef de l'État, le pouvoir local également ?
Alors effectivement, l'Inde est une république qui s'est donc fondée en 1947 à l'indépendance, et elle a une constitution qui a été élaborée en 1950, donc c'est vraiment un régime stable du point de vue constitutionnel, avec beaucoup d'amendements depuis, donc elle a aussi pu s'adapter à des changements, à des transformations depuis, et effectivement c'est un État fédéral. Alors le fédéralisme était tout à fait nécessaire pour pouvoir rendre compte de la diversité de l'Inde. Il faut rappeler que l'Inde est un pays multiple au niveau de la langue, avec plus de, en fait, peut-être 3000 langues si on compte les dialectes, etc., 28 langues de l'État. Donc, actuellement, il y a 28 États fédérés et 7 territoires, donc qui sont en général des espaces plus petits, qui ont aussi un statut particulier à cause de leur histoire. Donc il y a par exemple le territoire de Pondichéry, le territoire de Delhi, la capitale, donc voilà quelques exceptions comme ça. Mais sinon, donc c'est des États fédérés. Et donc il y a évidemment une organisation entre le centre, ce qu'on appelle le centre, donc un parlement à Delhi, deux assemblées, donc la Lok Sabha, qui est l'assemblée du peuple, élue au suffrage universel, à un seul tour. Donc ça, c'est assez particulier et ça induit quelques distorsions des fois dans la représentation. Et puis, une Rajya Sabha, qui est la chambre des États, où les États sont représentés proportionnellement à leur population, pas tout à fait d'ailleurs, mais c'était, disons, l'esprit. Et puis, dans chacun des États fédérés, il y a également une assemblée ou deux des fois, et puis un gouvernement avec un chief minister qui dirige ce gouvernement. Et donc il y a un partage des pouvoirs entre le centre et les États fédérés. Alors c'est vrai que c'est en même temps le nom de l'Inde, c'est Union indienne. Et c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce nom et pas fédération. Donc c'était vraiment pour insister sur l'importance qu'avait le centre, parce qu'au moment de l'indépendance, l'Inde, les dirigeants de l'Inde souhaitaient pouvoir transformer le pays, pouvoir sortir aussi du sous-développement et de la pauvreté où ils étaient, donc avoir des moyens. Le gouvernement central voulait avoir les moyens d'engager une politique économique, sociale, d'envergure. Et donc, beaucoup de pouvoirs sont dans les mains du centre. Et l'essentiel des revenus de la fiscalité viennent au centre, qui ensuite les redistribue aux États. Donc ça limite un petit peu, évidemment, les prérogatives des États, mais ils ont quand même un certain nombre d'éléments, par exemple, de la politique agricole, sur la politique éducative, par exemple, hein, les programmes scolaires. Alors, il y a des programmes nationaux, mais en fait, c'est chaque État qui délivre aussi ses manuels scolaires, etc. Donc, une vraie décentralisation. Voilà.
Quelle est en Inde également la question ou la place de la religion ? C'est un pays qui est majoritairement hindouiste, mais on sait qu'il y a une forte population qui est musulmane, ce qui va d'ailleurs expliquer parfois les tensions avec les voisins pakistanais ou du Bangladesh. Comment s'organisent les éléments ? Est-ce que les musulmans ont une représentation politique ? Est-ce que c'est, disons, par État dans la répartition géographique ?
Alors effectivement, donc l'Inde est en majorité de religion hindoue, avec, disons que c'est soit à peu près 80% de la population. Les musulmans représentent 15%, enfin 14%, 14-15%. Alors le dernier recensement c'est 2011, je précise. Alors du coup, évidemment, on a des chiffres aujourd'hui qui sont des évaluations et qui ne sont pas forcément, surtout dans le domaine de la religion, tout à fait stable. Mais alors, il n'y a pas de représentation spécifique par les religions, puisque l'Inde se veut un pays laïque. Donc on dit, en fait, on emploie le terme séculariste pour l'Inde. C'est d'une laïcité particulière qui n'est pas, comme on a connaissance en France, vu sous la forme de séparation entre des églises et l'État, puisqu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de d'organisation, disons, de l'hindouisme de ce type-là. Et donc, c'est plutôt quelque chose qui avait été décidé donc à l'indépendance, juste après la partition de l'Inde, donc cette division entre l'Inde et le Pakistan, hein, qui étaient les deux étant sous la domination britannique pendant la période coloniale. Et donc au moment de cette partition, il y a eu beaucoup de violence, des déplacements de population massifs, et donc il fallait pouvoir ensuite apaiser la situation et permettre à chacun d'exercer sa religion tout à fait librement. Donc la constitution de l'Inde précise bien qu'il y a une liberté totale de religion, de diffusion même de la religion, on peut avoir des écoles liées à la religion, etc. Et donc pour la représentation politique, il n'y a pas. Alors ça a changé par rapport à la période coloniale, puisque à l'époque britannique, les musulmans avaient obtenu un système d'électorat séparé. Donc ils élisaient en fait leurs propres représentants. Alors c'était pas encore des suffrages universels, hein, c'était vraiment très limité, mais quand même. Et cette chose-là a été supprimée à l'indépendance, étant donné que justement il fallait pas de classer les populations selon leur religion. Et donc, voilà. Du coup, les musulmans sont quand même assez peu représentés parce qu'il y a peu de députés musulmans. Les partis politiques en présentent souvent assez peu. Donc,
La population musulmane, elle est équitablement répartie sur le territoire ou bien est-ce qu'il y a des états ou des zones géographiques où elle est particulièrement présente?
Oui, alors elle est plus présente en proportion dans le nord de l'Inde, en Uttar Pradesh, qui est l'état le plus peuplé du nord de l'Inde, et puis également au Bengale occidental, au Bihar, et elle est beaucoup moins représentée en proportion dans le sud de l'Inde. Alors il y a quelques exceptions, c'est au nord du Kerala, où on a quelques districts qui sont très fortement peuplés de musulmans, mais il faut aussi dire que cette population musulmane n'est pas uniforme. En fait, il y a beaucoup de groupes différents, d'obédiences différentes aussi, majorité sunnite, mais il y a aussi des chiites, et puis ils parlent les langues des états dans lesquels ils vivent. Donc, on ne peut pas parler des musulmans de manière générale, c'est un peu une étiquette qui a été mise en place en fait à l'époque coloniale, mais qui uniformise des catégories qui ne le sont pas en fait.
Et que reste-t-il, s'il reste quelque chose, de l'ancienne présence coloniale, notamment la présence des comptoirs portugais ou français? Est-ce que c'est quelque chose qui fait complètement partie de l'histoire et qui n'a plus aucune signification aujourd'hui? Ou est-ce que dans l'organisation, vous citez tout à l'heure le territoire de Pondichéry, donc ancien comptoir français, est-ce que dans l'organisation, est-ce que dans le rapport aussi à l'Europe, ça contribue à faire quelque chose?
Alors, les comptoirs, enfin, si on parle du comptoir français, par exemple, aujourd'hui, il y a une sorte de petite nostalgie touristique, ce qui fait que la classe moyenne indienne aime bien aller à Pondichéry, parce que c'est un peu exotique. Mais sinon, c'est vraiment du passé, cette histoire-là, en tout cas pour le comptoir français, qui d'ailleurs est composé de plusieurs petits territoires, hein, puisqu'il y a Pondichéry elle-même, Karaikal, Mahé et Yanaon, donc c'est dans différents états de l'Inde, en fait, vous avez des petits territoires qui font partie de ce territoire de Pondichéry. Pour Goa, alors Goa, ça a été un peu plus violent, puisqu'il a fallu une guerre, hein, en 61, pour chasser les Portugais, qui ne voulaient pas concéder ce territoire-là, donc maintenant c'est un état aussi de l'Inde. Voilà, alors après, il y a évidemment plutôt l'histoire, la référence aux Britanniques, et à la colonisation britannique, c'est ça qui est le plus prégnant. Alors, en fait, ça reste quand même utilisé et débattu assez régulièrement. Je pense à ce discours qu'avait fait un député, enfin, qui est maintenant député, mais qui a été longtemps diplomate, Sachi Tharoor, qui était, en 2015, il a fait un discours à la Oxford Union, qui est une vieille association de l'Université d'Oxford, en dénonçant en fait l'exploitation économique qu'avaient fait les Britanniques de l'Inde et en réclamant d'une manière symbolique des réparations. Donc c'est un débat qui peut exister, ça avait fait un buzz, y compris en Inde, alors surtout dans la diaspora, mais y compris en Inde aussi. Et donc c'est quelque chose qui reste parfois mis en avant. On réclame le retour d'un diamant qui est dans la collection de la couronne britannique. Voilà. Et puis, finalement, ce qui est, surtout dans le discours actuel du parti au pouvoir actuellement, qui est celui des nationalistes hindous, qui est au pouvoir au centre aujourd'hui en Inde, l'idée que finalement, il y a une sorte d'assimilation entre ce que eux ils considèrent comme deux formes de colonisation, une qui serait celle des musulmans pendant la période dite musulmane, mais en fait, dit comme ça, c'est un peu simplifié, mais disons entre le 11e et le 18e siècle, et puis une période dite coloniale britannique, européenne, qui suit. Et donc, ils veulent un peu se débarrasser des deux, enfin, c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Et pour ce qui est des Britanniques, je voudrais juste signaler, par exemple, que la ville de Delhi, qui a été choisie comme capitale de l'Empire en 1911, auparavant, c'était Calcutta, donc il y avait eu ce choix de se déplacer à Delhi, et donc la construction de ce qu'on appelle la Nouvelle Delhi, donc New Delhi, avec des grandes avenues, enfin, c'était un style néoclassique qui voulait montrer aussi la puissance, bien sûr, de l'Empire. Et donc, il y a tout un... Aujourd'hui, certains bâtiments qui sont reconstruits, des avenues qui sont rebaptisées, etc. Donc, on veut aussi vraiment indianiser complètement cet espace qui reste assez marqué par la période coloniale. Sur ce qui est des relations avec l'Europe, hein, disons, je pense que c'est pas ce qui joue le plus. Et d'ailleurs, l'Inde, pendant ces dernières... décennies, se tournait plus vers des relations avec l'URSS, la Russie, ça c'est ancien, avec les États-Unis, évidemment tout le contexte régional, mais je pense qu'on va en reparler. Et pour eux, l'Europe était plutôt une organisation pas très très efficace, et du coup, c'était pas leur priorité, disons. Néanmoins, ils ont évidemment des relations commerciales importantes. C'est quand même, si on prend l'Europe en jeu, dans son ensemble, en incluant le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, c'est quand même le premier partenaire commercial. Donc ça reste important, mais c'est plutôt des relations bilatérales avec l'Allemagne, par exemple. Et pour finir, avec le Royaume-Uni, après le Brexit, les Anglais, justement, les Britanniques avaient l'espoir de pouvoir développer des échanges un peu plus librement, et notamment avec l'Inde, ils avaient mis ça en avant, et donc il y a la discussion d'un traité de libre-échange. Bon, pour l'instant, c'est pas signé, et donc les Indiens aimeraient un assouplissement des visas pour que leurs ressortissants puissent aller plus facilement, et j'ai vu récemment que les Britanniques demandaient à ce qu'on baisse les droits de douane sur le whisky, qui sont absolument énormes, et enfin voilà, bon, ce point-là est un peu anecdotique, mais en fait... effectivement, ça reste important. Donc,
Le fait que le Premier ministre du Royaume-Uni soit un Indien et que le Premier ministre écossais soit un Pakistanais, c'est vu comme une revanche de...
Ah oui, complètement. Alors là, ça a été... Quand Rishi Sunak a été nommé Premier ministre, il y a eu toutes les télévisions en Inde qui ont affiché des bandeaux. C'est vraiment vu comme une revanche de cette période. Et donc, il est vraiment revendiqué comme un... Alors, même s'il est né, évidemment, au Royaume-Uni, si ses parents étaient nés au Kenya, donc c'est vraiment une immigration ancienne en deux temps. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un symbole. Il a juré, quand il est devenu député, sur la Bhagavad Gita, donc, parce qu'il se dit hindou. Donc ça, c'est quand même une première dans le monde, en dehors de l'Inde, qu'un chef d'État ou un homme politique se revendique comme ça de l'hindouisme en dehors de l'Inde.
Alors vous soulignez le fait que les parents de Rishi Sunak viennent du Kenya, ce qui renvoie à la diaspora indienne, qui est un élément extrêmement important. On voit notamment dans l'océan Indien, présence d'Indiens alors depuis très longtemps, d'ailleurs c'était à La Réunion, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Kenya. Comment ces Indiens sont arrivés ? Est-ce que c'était sur le modèle de l'immigration européenne, la fuite de la pauvreté, la recherche d'un avenir meilleur? Est-ce que c'était établir des relations commerciales et donc une logique d'implantation de comptoirs? Comment ça s'est tissé, cette diaspora indienne?
Alors, effectivement, la diaspora indienne, aujourd'hui, on l'évalue à peu près à 28 millions de personnes, qui serait peut-être la deuxième diaspora au monde, derrière la mexicaine et la chinoise. En fait, ça se... c'est ce qui correspond à 2-3% de la population indienne. Donc c'est important, et elle est présente partout dans le monde. Elle est extrêmement diverse. C'est pour ça que certains chercheurs disent qu'il faudrait pas parler d'une diaspora, mais des diasporas indiennes ou sud-asiatiques, parce qu'évidemment, il y a aussi ceux qui viennent du enfin, qui était né au Pakistan avant que le Pakistan soit un État séparé de l'Inde. Alors, cette diaspora, elle s'est constituée sur un temps assez long, mais disons que avant le 19e siècle, il y a eu des Indiens qui sont partis, des marchands en particulier, également des prêtres, par exemple, vers l'Asie du Sud-Est. C'est comme ça que le bouddhisme et l'hindouisme s'est diffusé en Asie du Sud-Est. Il y avait aussi des échanges importants avec les côtes africaines. Mais ces Indiens qui sont partis à ce moment-là n'étaient pas effectivement reliés d'un point de vue politique à l'Inde. Et ils n'ont pas gardé de contact ensuite sur la longue durée. Donc ils se sont inscrits finalement dans les territoires où ils s'installaient. Donc le début vraiment d'une constitution de diaspora, c'est au 19e siècle, et en fait ça se fait avec le système dit des indentures, où on parle aussi de coolie trade, c'est-à-dire à partir du moment où l'esclavage est supprimé, alors pour les Britanniques en 1835 et pour les Français en 1948, eh bien il y a besoin d'avoir une main-d'œuvre dans ce qu'on appelle les îles à sucre, donc notamment pour la canne à sucre, pour cultiver la canne à sucre, puisque les anciens esclaves originaires d'Afrique ne souhaitent pas en général travailler sur les plantations où ils étaient esclaves, donc il faut trouver de la main d'œuvre. Donc effectivement à l'île Maurice, surtout à La Réunion, dans les Antilles, aux îles Fidji, et il y a aussi des personnes qui partent avec des contrats vers Singapour, la Malaisie, etc. Donc là, c'est vraiment des déplacements assez importants, et parfois assimilés à une forme d'esclavage. D'ailleurs, ils avaient des contrats, hein, ils partaient pour 5 ans en général, et ils avaient normalement le retour gratuit que les planteurs devaient payer, bon, ce qui en général ne se faisait pas, donc ils sont restés dans ces territoires. Et ils ont conservé quand même, parce que souvent ils vivaient aussi en circuit fermé sur les plantations, donc ils ont conservé leurs pratiques religieuses, leurs coutumes, etc. Donc c'est ce qui fait aussi que ça constitue finalement déjà une diaspora. Alors il y avait aussi évidemment d'autres migrants qui partaient librement pour travailler dans l'Empire britannique, hein, par exemple en Afrique du Sud, des marchands aussi. Et voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'indépendance, ces personnes qui vivaient donc, qui étaient d'origine indienne et qui vivaient ailleurs qu'en Inde, n'ont pas eu la nationalité indienne. Parce qu'en fait, la nationalité indienne a été conçue comme vraiment reliée à la population qui vivait sur le sol indien. Et donc, Nehru, qui était à ce moment-là Premier ministre de l'Inde, a conseillé en fait à ces populations de s'intégrer là où ils vivaient, donc dans les territoires où ils étaient. Et voilà. Donc, ça, c'est. Ce qui fait que finalement l'Inde ne s'est pas vraiment intéressée à cette diaspora jusqu'à des années, enfin jusqu'aux années, la fin des années, fin 90 quoi. Et donc après, évidemment, dans les années 50-60, on a une migration qui est plutôt une migration économique vers les États-Unis, vers la Grande-Bretagne et puis vers les États-Unis, le Canada aussi, et puis ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, hein, donc des gens plutôt. Des médecins, des avocats, des scientifiques, hein, qui sont partis s'installer. Et puis, dans les années 70, c'est vraiment dans les pays du Golfe qu'on a une installation. Enfin, c'est pas une installation d'ailleurs, parce que ce sont vraiment des migrants qui ont des contrats. D'ailleurs, c'est assez semblable finalement, par certains aspects, avec le système de contrats du 19e siècle. Et donc, ils travaillent dans ces pays du Golfe, et ils sont très très nombreux à y travailler. Voilà, donc ça c'est vraiment cette constitution assez complexe et longue et qui aujourd'hui est utilisée comme un instrument de soft power par le pouvoir indien, parce que notamment il y a une diaspora qui est particulièrement prestigieuse et bien intégrée, c'est la diaspora aux États-Unis. C'est à peu près 4,5 millions de personnes qui sont très bien vues aux États-Unis même, hein, considérées comme des gens qui réussissent. Ils sont très nombreux à diriger des startups de la Silicon Valley. On sait très bien que c'est un Indien qui est, enfin, d'origine indienne, qui est à la tête de Google, à la tête de Microsoft. Donc c'est vraiment des personnes qui ont une aura très importante et qui d'ailleurs tirent aussi l'envie des jeunes Indiens de suivre le même parcours, donc d'aller dans les instituts de technologie qui sont très prestigieux en Inde pour devenir ingénieur et peut-être partir ensuite aux États-Unis et suivre cette voie-là.
Vous évoquiez cette diaspora, un des plus célèbres, c'est peut-être Gandhi, qui a vécu longtemps en Afrique du Sud. C'est intéressant son parcours, parce qu'il a fait carrière en Afrique du Sud, il a été étudiant à Londres, et ensuite il est devenu le Gandhi qu'on connaît en Inde.
Tout à fait. Alors, d'ailleurs, d'autres, la plupart des leaders du parti du Congrès, qui était le parti qui luttait pour l'indépendance de l'Inde, ont fait leurs études à l'époque en Grande-Bretagne. Donc Gandhi, Nehru également. Hein. Et c'est vrai que Gandhi donc a fait des études de droit. Et ensuite, il est revenu en Inde. Et en fait, il a trouvé tout simplement un emploi au service de marchand en Afrique du Sud. Et donc, il est parti pour travailler en Afrique du Sud. Il était encore très jeune. Et il est resté effectivement 25 ans en Afrique du Sud. Donc, en fait, toute sa formation presque aussi politique s'est faite en Afrique du Sud. Donc, il était au service de ses marchands dans un premier temps. Il défendait leurs intérêts. Et puis, petit à petit, il s'est orienté vers la défense de la minorité indienne plus largement et qui était discriminée en Afrique du Sud. Et donc, quand il est revenu en Inde en 1915, il était un peu connu quand même par les succès qu'il avait eus en Afrique du Sud, mais il a dû, pendant un certain temps, d'ailleurs, lui-même a dit, quand il est rentré, qu'il fallait d'abord qu'il reprenne connaissance, finalement, de l'Inde et qu'il circule pour bien, disons, comprendre où en était l'Inde à ce moment-là.
Alors, vous évoquez l'économie via les fondateurs ou les directeurs aujourd'hui de Google et des grandes startups numériques, grandes entreprises numériques aux États-Unis. On connaît beaucoup en France le groupe Tata, qui s'était rendu célèbre il y a quelques années par le rachat d'anciennes industries françaises. L'Inde est une grande puissance économique dans des secteurs assez variés. D'ailleurs, à Conflit, nous avions réalisé l'année dernière un hors-série consacré à la pharmacie et on avait notamment consacré un article à la puissance pharmaceutique de l'Inde par ses vaccins, notamment par une industrie du médicament tout à fait développée. Alors c'est surprenant quand on le découvre, parce que c'est pas forcément à ça qu'on pense. Quand on pense à l'Inde, on pense pas forcément à ça immédiatement, mais cette puissance industrielle, cette puissance de la pharmacie, c'est quelque chose qui contribue au rayonnement de l'Inde.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on parle d'une diplomatie du vaccin. Peut-être vous en aviez parlé dans votre émission. Donc l'Inde est vraiment très importante pour toute la production de médicaments génériques, hein, donc qui n'ont plus les brevets, et qu'elle vend en particulier en Afrique. Donc elle a... Et d'ailleurs, au moment de la crise du Covid, il y avait eu un peu un moment où l'Inde avait également prétendu aider dans ce domaine, mais finalement, elle a été elle-même rattrapée par ses propres problèmes, et finalement, elle a dû garder pour elle les vaccins qu'elle avait. Mais c'est vrai que c'est un domaine dans lequel l'Inde est très développée. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, y compris françaises, je pense à Sanofi, qui ont délocalisé certaines de leurs activités en Inde. Et donc, pour vous dire que c'est...
Et sur les questions autres puissances industrielles, l'automobile, par exemple, où là aussi, on a des... Ou le textile également, l'Inde fait partie aussi des grands.
Alors, l'automobile, alors, c'est un marché que convoitent beaucoup les constructeurs automobiles parce qu'il est en expansion rapide, hein, du fait de la croissance de la classe moyenne qui s'équipe en automobile, ce qui n'est pas très bon pour la pollution des grandes villes d'ailleurs. Et donc, effectivement, alors, il y a la Tata Nano qui est la voiture la moins chère du monde qui avait été produite. Il y a eu des accords entre des constructeurs japonais et indiens pour des constructions communes. Et puis également, Renault est implanté à Chennai. Donc il y a effectivement cette industrie automobile qui est importante. Après, on a également évidemment l'informatique avec des grandes entreprises comme Infosys. D'ailleurs, Infosys, l'épouse de Rishi Sunak est la fille du fondateur d'Infosys, ce qui fait qu'elle est extrêmement fortunée. Donc...
Alors, pour cette dernière partie d'émission, nous allons aborder les rapports de l'Inde avec ses voisins. Alors, commençons avec le voisin peut-être le plus compliqué, auquel les relations sont les plus difficiles, à savoir le Pakistan. Alors, je ne reviendrai pas sur les drames de la partition. C'est évidemment toujours présent, même si c'est plus dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on a deux pays qui sont deux puissances nucléaires. Le Pakistan, qui est un pays... aussi important d'un point de vue démographique, moins que l'Inde, mais enfin qui compte d'un point de vue démographique. Et puis il y a cette pomme de discorde du Cachemire qui n'est pas résolue là aussi. C'est quelque chose qui dure. Ces fractures, ces cicatrices nées de la partition, en quoi elles demeurent aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que Modi par exemple essaye de traiter, ou en quoi ça nuit aux bonnes relations ou aux relations tout court entre l'Inde et le Pakistan?
Alors c'est certain que la relation entre l'Inde et le Pakistan est une des choses finalement qui vient gêner la puissance indienne d'une certaine manière, et surtout dans son environnement, parce que c'est une relation conflictuelle depuis l'indépendance. Rappelons que quand même, juste après l'indépendance, il y a eu une première guerre entre l'Inde et le Pakistan, dès 1948. C'est d'ailleurs la première intervention de l'ONU qui était toute... naissante à l'époque, et donc effectivement, alors le problème majeur qui oppose ces deux pays, c'est la situation du Cachemire. Donc effectivement, le Cachemire qui était donc un état princier, et qui à l'indépendance n'avait pas choisi quel état rejoindre, et finalement le Maharaja, qui était hindou et qui régnait sur une population à majorité musulmane, à la suite d'incursions de l'armée pakistanaise sur ses frontières, a fait le choix de rejoindre l'Inde, en fait. Et donc, à la suite de la première guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1948, l'ancien territoire du Cachemire a été divisé en deux, avec une limite qui s'appelle la ligne de contrôle, qui n'est pas une frontière internationale, en fait, c'est une ligne de cessez-le-feu, en quelque sorte, hein, et qui sépare le Cachemire en deux. Donc le Cachemire occupé par l'Inde, ça, c'est ce que dit le Pakistan, et le Cachemire occupé par le Pakistan, ça, c'est ce que dit l'Inde. Donc voilà, donc ça sépare en deux. Et puis, il y a en plus un troisième bout qui a été récupéré par la Chine en 63. Peut-être qu'on en parlera juste après. Alors, effectivement, c'est un conflit qui fait que l'Inde, qui aimerait se voir un rôle majeur dans son environnement régional de l'Asie du Sud, et qui se comporte un peu comme un grand frère vis-à-vis des petits États qui l'entourent, et notamment avec la création de cette organisation, la SAARC, qui est l'organisation des pays de l'Asie du Sud, qui inclut tous ses voisins et également l'Afghanistan. Eh bien, la SAARC, créée en 1985, ne peut pas vraiment se déployer parce qu'il y a ce conflit entre l'Inde et le Pakistan. Et vous posiez tout à l'heure la question, est-ce que comment Modi se positionne par rapport à ça? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté dans la politique de Modi vis-à-vis du Pakistan, si ce n'est que peut-être c'est davantage utilisé en politique intérieure. Donc il y a eu un accrochage par exemple assez grave en 2019, et donc ça a été utilisé pendant la campagne électorale qui a suivi, et donc on présente toujours le Pakistan comme l'ennemi congénital de l'Inde, avec une tendance du coup à voir aussi les musulmans indiens, qui sont parfaitement indiens, comme peut-être des agents, disons, du Pakistan.
Cinquième colonne, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc effectivement, ça peut être utilisé, mais disons, du point de vue des relations internationales, la relation entre l'Inde et le Pakistan ne s'est pas forcément aggravée ni améliorée depuis que Modi est au pouvoir. D'ailleurs, il avait invité à son investiture, c'est la première fois que c'était arrivé, le Premier ministre de l'époque du Pakistan, pour montrer que c'était pas aussi simple que ce qu'on imaginait, et il n'allait pas tout de suite s'opposer au Pakistan. Mais c'est vrai que c'est deux puissances nucléaires, puisque le Pakistan a fait ses essais en 98, quelques mois après celui de l'Inde, quelques semaines même. Et donc, c'est un point toujours chaud du globe, extrêmement dangereux, bien sûr.
Alors, vous évoquiez l'Inde qui est la troisième partie prenante du... Pardon, vous évoquiez la Chine qui est la troisième partie prenante du Cachemire. Et avec l'Inde, là aussi, les relations sont quelque peu tendues. Il y a régulièrement des accrochages sur la frontière au niveau de l'Himalaya, avec des morts d'ailleurs, quelques unités ou quelques dizaines de personnes qui sont tuées. Quelle est l'origine de ces frictions entre ces deux voisins? Est-ce qu'ils ont des visées territoriales communes?
Alors effectivement, la frontière dans l'Himalaya qui sépare la Chine de l'Inde, alors pas sur toute la longueur, puisqu'il y a le Népal et le Bhoutan qui sont aussi entre les deux, sur une partie de la frontière. Ça remonte à l'époque coloniale, en réalité, le problème de frontière, en tout cas. Bon, c'est un accord qui avait été signé à Simla en 1914, avec le Tibet, à l'époque. Et il y avait un représentant de la République de Chine qui venait juste d'être proclamé, qui n'avait pas été d'accord avec le tracé de la frontière qui avait été accepté par le Tibet, qui s'appelle la Ligue MacMahon, du nom du Britannique qui a négocié cette ligne. Et donc, la Chine ne reconnaît pas cette frontière. Et alors, il y a deux morceaux, disons. Il y a à l'ouest, c'est au Ladakh, et à l'est, c'est un état de l'Inde qui s'appelle l'Arunachal Pradesh, et que la Chine revendique en fait comme son territoire. D'ailleurs, sur ces cartes, elle inclut l'Arunachal Pradesh, c'est 90 000 km², donc c'est un territoire de montagne qui a un intérêt notamment stratégique parce que beaucoup de fleuves et de rivières y prennent leurs sources et qui ensuite coulent vers l'Inde et le Bangladesh. Donc, voilà. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a souvent des accrochages, des morts. En fait, non. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu un accrochage et il y a eu, pour la première fois depuis la guerre de 1962, effectivement, des soldats qui sont morts. En fait, les soldats qui sont sur ces frontières ne sont pas armés d'armes à feu, exprès, pour pas qu'il n'y ait d'incidents qui dégénèrent. Donc, ces morts, d'ailleurs, c'est des gens, ils ont été précipités dans le vide, donc ils se sont battus à main nue, en quelque sorte. On ne sait pas combien il y a eu de morts du côté chinois, parce qu'ils n'ont pas vraiment communiqué. Et donc, récemment, il y a la semaine dernière, la Chine a publié une liste de noms, de 11 noms, en fait, d'Arunachal Pradesh, qui étaient changés avec des noms chinois et tibétains. Et donc, à chaque fois, ça s'est déjà produit à 3 reprises depuis 2017. Et à chaque fois, l'Inde proteste, évidemment, sur ce point-là.
Et effectivement, on voit que la nomination géographique est importante parce que ça signifie une présence politique, ou du moins ça peut justifier ensuite une présence politique. Donc cette question des noms est un élément majeur, enfin important pour la politique chinoise.
Oui, enfin en tout cas, ils utilisent ces changements-là pour signifier nous n'avons toujours pas accepté que l'Arunachal Pradesh est indien, pour nous c'est un territoire chinois. Mais il faut quand même dire que ces problèmes entre l'Inde et la Chine du fait de la frontière, les deux pays n'ont pas intérêt à ce que ça dégénère. Alors il y a eu une guerre en 1962, donc la Chine a pénétré assez loin d'ailleurs dans le territoire indien. C'est à ce moment-là qu'elle, par un accord avec le Pakistan, qu'elle s'approprie un morceau du territoire du Cachemire, donc l'Aksai Chin. Mais en fait, les Inde et Chine sont quand même aussi partenaires, et des partenaires commerciaux, avec des échanges commerciaux très importants. L'Inde dépend en fait de la production manufacturière chinoise de manière assez importante. Donc il y a un déficit commercial important d'ailleurs. Et même si, par exemple, en 2020, quand il y avait eu ce fameux accrochage, l'Inde avait interdit TikTok sur son territoire, ce que maintenant les Occidentaux veulent faire aussi d'ailleurs, pour en l'accusant de pouvoir... que les Chinois pouvaient espionner par ce biais-là l'Inde, il y avait quand même 150 millions d'abonnés, c'est-à-dire c'était le premier marché en fait, de TikTok à l'extérieur.
Les deux pays, Inde et Chine, sont membres de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai.
Oui, alors l'Inde et le Pakistan ont rejoint effectivement cette organisation en 2017. Et alors c'est une organisation voulue par la Chine et par la Russie pour... s'occuper de ce qui se passe en Asie centrale, hein, c'était vraiment le but de cette organisation. Mais c'est vrai que c'est l'occasion pour l'Inde aussi de se présenter comme un acteur en Asie centrale. Parce que ça, c'est aussi un point important pour elle. Et là, on est sur des liens de très longue durée. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de montrer dans mon livre, l'Inde a eu des relations avec l'extérieur depuis fort longtemps, et notamment avec l'Asie centrale.
Merci beaucoup, Anne Viguier, de nous avoir présenté en quelques minutes une synthèse brève, mais qui permettra à nos auditeurs d'avoir, je ne vais pas dire l'essentiel, mais en tout cas quelques idées sur l'Inde, qui est un pays ô combien important et qui est malheureusement peu connu. Alors on va essayer aussi à Conflit d'en parler un peu davantage dans les mois qui viennent pour vous faire mieux connaître et découvrir ce pays qui est extrêmement passionnant à bien des égards. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Brève histoire de l'Inde, du pays des mille dieux à la puissance mondiale, qui est paru chez Flammarion. Comme à chaque fois, les références sont à retrouver sur le site de Conflit, revueconflit.com. Sur notre site internet, vous pouvez également retrouver le numéro qui est actuellement en kiosque, ainsi que les anciens numéros que vous pouvez acquérir en format numérique et papier. Vous pouvez vous abonner, vous réabonner, et faire abonner vos proches aussi. Conflit ne vit que par ses abonnés et par ses lecteurs. Donc si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à faire connaître la revue. Et vous nous permettez ainsi de développer Conflit, de vous permettre également d'accéder à ses contenus en accès libre et ainsi de vous faire connaître des pays, des régions qui sont importantes pour la marche du monde. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.